Je réfléchis hier que j'étais en train de préparer ce message. J'ai dit, Seigneur, quel nom peut-être je vais donner à ce message. Et c'est une question qu'il faut se poser. Et ma fille Isabella, elle me dit, papa, j'aime bien quand je parle avec toi, parce que toujours tu me poses des questions et tu me fais réfléchir. Alors je pense que c'est important de réfléchir dans la vie chrétienne. C'est important de nous poser des questions, de nous interpeller des fois, de ne pas penser, parce qu'on est déjà chrétien, qu'on connaît tout, qu'on a été sauvé par la grâce de Dieu et qu'on n'a pas besoin de continuer dans les chemins, peut-être à changer ou à grandir avec le Seigneur. Alors c'est important, et c'est une question, plutôt cette prédication ce matin. Alors je pose la question, est-ce que tu veux prier? Alors ça peut partir dans tous les sens, parce que maintenant, on regarde tous les médias, toutes les informations. Je me rappelle à mon époque, quand j'étais petit, qu'on regardait plutôt, c'était la télé, c'était les matchs de foot, parce que j'aime bien le foot. Alors les stars dans l'époque, ou les personnes qui brillaient en plus, c'était les footballeurs, dans mon cas, parce que c'était ça que je regardais. Alors pour moi, je dirais, ah Seigneur, un jour peut-être je peux devenir un star aussi. Alors maintenant, il y a toutes les choses qui changent, il y a le monde entier qui avance, et on voit maintenant comme tout ça a changé. Parce qu'avec la technologie, avec l'Internet, il y a des personnes qui même, on ne les connaît pas dans l'autre but du monde entier, mais qui devient un star. Maintenant, ça ne s'appelle pas comme ça, ça s'appelle influenceur, non c'est ça? Des influenceurs. Alors, c'est les personnes, ils sont très connus dans le monde entier. Alors, des fois, je parle avec mes filles, et ils sont les réseaux sociaux, et on n'a pas empêché de rentrer à mes filles dans les réseaux sociaux, mais toujours plus ma femme que moi, on a été en train de trier un petit peu les choses et de donner les choses à son temps, parce que je partageais la semaine dernière, j'ai eu une très bonne conversation avec Ghislaine de l'importance de ne pas garder nos enfants dans un petit coin et d'empêcher qu'ils vont voir le monde comme il est maintenant. C'est important de préparer nos enfants pour un monde qui est difficile et qui est bien compliqué à l'extérieur. Mais c'est à nous, les parents, de aider nos enfants, de les accompagner, d'être à ses côtés et de faire le travail que le Seigneur il nous a donné à faire. Et c'est ça comme je vois la famille. Alors, maintenant, on voit toute la nouvelle génération parce que le monde, il change. On est dans un monde qui est en train de changer tout le temps. On est dans un monde qui, on voit une église maintenant dans 7 siècles et on regarde l'église, ça fait 50 ans, ça fait 60 ans. Et c'était pas la même chose. Il faut que les choses changent. Même dans tous les domaines. On voit maintenant comme la famille a changé. Et on ne peut pas dire qu'on va faire les mêmes choses avec un enfant. Ça fait 40 ou 50 ans que maintenant qu'ils sont toujours exposés devant la télé, devant un écran déjà. Si tu regardes un enfant de 12 ans ou 3 ans, qu'est-ce qu'il voit? Toujours les parents être devant un écran. Et un enfant avec 12 ans, même tu ne l'as pas appris à gérer un téléphone ou quelque chose, mais tu vois qu'il est déjà en train de faire comme ça et de faire comme ça. Ça s'apprend pour les choses qu'ils vont voir. Alors qu'est-ce qu'on va faire nous comme parents? Qu'est-ce qu'on va faire nous dans cette société? Parce qu'on est dans une société qui est en train de changer tout le temps. Et pourquoi je dis ça? Parce que maintenant, la mode entre les plus jeunes, c'est dommage que les jeunes ils sont pas là ce matin parce que ce message, c'est important, mais bon, c'est pas grave, ils sont en train de préparer les choses pour dimanche prochain et c'est une activité très importante. Mais en tout cas, maintenant, tout le monde qui regarde un téléphone, il dit, je voudrais devenir un star ou un influenceur. Alors, ce matin, si tu veux devenir un star, si tu veux briller et tu veux éclairer la lumière, je pense que ce message, c'est pour toi ce matin. Parce que quand j'étais en train de préparer ce message, j'ai vu que ce message, c'était vraiment pour moi. Parce que je voudrais être lumière et éclairer la vie de plusieurs personnes. Alors, je vais vous raconter une histoire. Moi, j'aime bien le petite histoire. Ça, c'est très court. Alors, c'est une illustration que j'ai trouvée. Et c'est une histoire qui dit qu'autrefois, il y avait, ça fait longtemps, il y avait un homme qui, une nuit, marchait dans les rues sombres et il portait une lampe à huile. Alors, la ville était très sombre et à un moment donné, il a rencontré un ami. L'ami, il était surpris, il commence à le regarder, il a dit, pourquoi tu portes une lampe si tu es aveugle? Pourquoi tu portes une lampe? Alors moi, la réponse, ça m'a étonné. Alors l'aveugle lui dit, je ne porte pas la lampe pour voir mon chemin. Je connais bien l'obscurité parce que je suis né aveugle. Alors moi, je suis habité à l'obscurité. Mais si je porte cette lampe, je la porte parce que cette lumière, il faut éclairer les autres. Pour que les personnes qui ne connaissent pas le village comme je la connais parce que je suis aveugle, qu'ils arrivent à voir la lumière que je porte. Et comme ça, les gens, ils vont retrouver les chemins. Retrouver ces chemins. Et c'est ça que c'est important. Je pense qu'on a tous besoin de retrouver le chemin qui conduit à Dieu. On a tous besoin d'aider minimum une personne qui retrouve le chemin qui conduit au Seigneur. Et je ne parle pas de religiosité, je ne parle pas de quelque chose comme une mission qu'il faut faire. Non, je dis que c'est une vérité que l'Église il a oubliée. Parce qu'on a oublié que nous, on est là dans la terre pour éclairer la lumière et montrer le chemin à quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le vrai chemin qui conduit. Jésus, il a dit, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis la vie. Il l'a évoqué plusieurs fois. Mais nous, aujourd'hui, dans ce cycle, qu'on est étonné pour la quantité d'informations qu'on reçoit tous les jours, on a oublié les choses plus importantes. Et c'est pour ça que quand je m'adresse à l'Église, je voudrais qu'il faut revenir à l'arrière, il faut recommencer à zéro, il faut ne pas penser à toutes les choses qu'on pourra faire ou avancer, il faut partir de la base que c'est l'Évangile, que c'est Jésus, que c'est lui qui porte toutes les choses qu'on peut faire. Parce que sinon, on oublie ça. On va jouer à l'église. On va jouer à avancer ou à faire des choses, mais on va oublier le plus important, que c'est les âmes, que c'est les personnes qui sont perdues, que c'est les personnes qui sont aveugles et qui ne connaissent pas la vérité. Alors, j'aimerais bien que le Saint-Esprit il nous aide à réfléchir ce matin. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, je disais la semaine dernière, on a commencé 7 mois. Et c'est un mois que peut-être il y a des personnes qui, pour des personnes qui c'est difficile parce qu'ils sont tout seuls, ils sont sans espoir. Noël, c'est pas facile pour tout le monde. Je vous dis, hein, moi quand j'ai grandi dans une famille très difficile, que pour moi, le plus difficile de toute l'année, c'était arriver à la fin de l'année et être avec ma famille. Parce que c'était insupportable la situation. Alors c'est pas un moment facile à vivre, mais on sait qu'on a déjà l'espoir de Dieu. Mais tu décides ce matin. Et je te pose cette question. Est-ce que tu veux briller? Je ne dis pas que tu vas briller dans le monde entier et tu vas être un influenceur qui va être très reconnu dans le monde entier. Parce que tu sais, il y a des personnes qui commencent à faire des bêtises maintenant. Et si tu regardes, moi je n'ai pas de TikTok, mais ma fille Isabella, elle a des TikTok, il y a pas mal de choses. Alors, tu regardes Instagram, tu regardes tous les réseaux et tu vois des personnes qui sont devenues très connues dans le monde entier. Pour faire quoi? Pour faire des bêtises, pour faire rien, pour faire rire les autres. Mais nous, qui on a la vérité, qui on a la parole de Dieu, qui on est responsable de cette vérité qu'on a reçue, qu'est-ce qu'on fait, nous, devant les personnes qui sont perdues? Et moi, je voudrais bien vous faire réfléchir ce matin par rapport à ça. Alors, tu veux briller, tu veux vraiment devenir un star. Alors, c'est quoi la motivation qu'on a vraiment pour briller? Je te pose la question. Tu veux briller pourquoi? Pour que tu reçois la gloire toi-même. Pour que tu dis, un jour, il y a les gens qui vont se rappeler, écoute, Oscar, il a bien fait les choses. Ah oui, il était bien, quand il prêchait, c'était bien. Non, ce n'est pas ça qui va nous encourager. C'est plutôt l'amour. C'est pour ça que j'ai commencé ce matin. Il y a la foi, il y a l'espoir, il y a l'amour. C'est ça qui dit Corinthiens. Mais le plus important, c'est l'amour. C'est plus important que la foi. Jésus, il a dit, tu n'as pas besoin d'avoir un foi très grand. Tu as besoin d'un foi trop petit. Mais c'est plus important l'amour qu'avoir la foi. Parce que ça, c'est le Seigneur qui nous a montré ça. Alors, on va rentrer directement à voir 5 points que je voudrais évoquer. Et peut-être, je ne sais pas si c'est Jérôme, ou, ah oui, c'est Jérôme qui est là-haut, s'il peut avancer dans le 12e slide, parce que normalement, j'ai tout noté, et comme ça, vous pouvez suivre dans votre Bible. Premier point, que c'est important, si tu ouvriez. Le premier, c'est simple, et je pense que tout le monde le connaît. Il sait que la source, écoute bien ça, la source de lumière est Jésus. Tu ne peux pas éclairer pour toi-même. Je ne sais pas, ça m'a pris de temps à apprendre les choses. Et moi, quand j'étais petit, j'ai pensé, je ne sais pas si c'était votre cas, mais c'était les miens. Quand j'étais petit, j'étais toujours étonné. Pourquoi la lune, il y avait un moment qu'on la voyait complète, il y avait un moment qu'on voyait à moitié, il y avait un moment qu'on la voyait un petit peu. Et moi, j'étais toujours étonné pour ça. Et quand on commence à grandir, on ne connaît pas toutes les choses. Après, j'ai passé par l'école, j'ai découvert que la lune, elle ne peut pas briller pour lui-même. La lune, elle n'a pas la lumière en soi-même. Ce n'est pas une source de lumière. C'est le soleil qui est une source de lumière et qui va éclairer tout le monde entier et aussi qui va donner de sa lumière à la lune. Et alors, c'est la lune qui pourra éclairer. Alors, si on se met dans ce contexte, on va voir que Jésus, il est la source de lumière et que nous, on fait le travail un peu comme la lune. Et c'est une comparaison pour comprendre mieux les choses. Je pense que je ne vais pas vous confondre dans cette comparaison que je fasse. Alors, si la lune va éclairer, si le soleil, pardon, il va éclairer parce que c'est la source, moi, il faut que je me mette à la place comme la lune pour éclairer les autres. Et dans ce cas-là, le monde entier. Alors, on voit qu'il y a des étapes de la lune. Et moi, je me rappelle, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, j'étais à Madrid. Et une fois, j'étais en train de marcher à l'église. Et je me rappelle que je regardais la lune. Et j'ai vu la lune remplie, très grande. Moi, j'étais étonné. Je dis, Seigneur, c'est beau de voir ça. Je me rappelle que le Seigneur, il m'a dit, écoute. Écoute bien ça, le Seigneur m'a dit. Ça dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Si tu vas éclairer ou pas le monde entier ou les autres. Il m'a dit, il y a des fois que la lune, tu vas la voir petite, parce qu'il y a une position, un alignement entre le soleil, la terre et la lune, pour que ça se produise. C'est pour ça que à chaque... Bon, je ne connais pas trop, je parle un peu les choses que je connais, mais je sais que chaque semaine, chaque mois, il y a des choses qui vont changer. Pour ça, je vous disais tout à l'heure, on est dans un monde qui est toujours en train de changer. Alors, ça dépend de quoi que la lune il va vraiment briller complet ou petit. Ça va dépendre, et écoute bien ça et tu peux le noter, de la position dans laquelle tu veux te remettre. Ça va dépendre de toi et de moi. Et c'est ça que le Seigneur il m'a dit, ça fait 15 ans à l'arrière. Ça ne dépend pas de lui. Parce que lui, il a fait déjà sa part. Le soleil, il va éclairer toujours. Jamais il va changer. Il est une source. Et Dieu, c'est pareil. Il est la source plus puissante des lumières. Mais qu'est-ce qu'il va faire qui va changer et que tu pourras briller et éclairer? Ça dépend de la position dans l'endroit que tu veux te remettre. Si tu veux être dans la position de marcher avec le Seigneur, de prier, d'écouter sa parole, de grandir, d'écouter des conseils de personnes qui pourront t'aider pour grandir, alors tu vas te mettre dans la position et tu commenceras à briller dans ta famille d'abord. Parce qu'il faut qu'on commence par la famille. Tu ne peux pas briller ailleurs, 300, 400 kilomètres ailleurs, et après il y a des problèmes dans la famille et je n'ai pas traité mes situations. Non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je l'ai vécu dans ma vie. J'ai vu les situations tomber, les choses tomber, parce que moi, j'avais pensé, c'est pas grave, je suis un pasteur, je connais tout, je suis déjà sauvé, j'ai éclairé la vie des autres. J'oubliais le plus important, que c'était ma famille, les personnes et les proches qui sont à côté. Je ne peux pas me projeter à vriller 12 ans, 300 km ailleurs, si je n'ai pas la capacité de vriller autour de moi. Et ça, c'est une vérité. Je peux te dire, jamais, jamais, on va éclairer le monde entier si on n'est pas capable avec les personnes qui sont à notre côté. Alors je te dis, je te pose la question ce matin, est-ce que tu vris pour quelqu'un dans ta famille? Est-ce que tu vris pour quelqu'un dans ton voisinage? Est-ce que tu vris pour quelqu'un dans le travail que tu fais? Il faut briller, mais pas avec notre lumière, c'est avec la lumière du Seigneur. On va rentrer à la parole, c'est Jean 1, à partir du verset 9. Jean, je dis 1 à partir du verset 9. Alors, celle-ci était la véritable lumière. Écoute ça. Jésus, il est la véritable lumière. Celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Celui qui est la parole était déjà dans le monde, puisque Dieu a créé le monde par lui, et pourtant le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas accueilli. Verset 12, certains pourtant l'ont accueilli, ils sont crus en lui. À tous ceux-là, il a accordé les privilèges de devenir enfant de Dieu. La lumière a venu dans ce monde. Et ce n'est pas grave si on dit que ce n'était pas le mois de décembre ou c'était à Noël. Moi, j'étais dans une église que je me rappelle qu'à l'époque, on fêtait Noël. Après, il y avait un moment que le pasteur il a dit, écoute, j'ai rentré, je fouillais un petit peu dans la parole de Dieu. J'écoutais des messages des pasteurs à droite, à gauche. Alors, je pense qu'on va pour revenir à l'arrière. C'est pas bon fêter Noël. C'est pas bon faire un sapin, faire ça et faire ça. Alors, c'est pas ça le plus important. C'est pas ça qui s'est noté dans la parole de Dieu. Si la date qui Jésus est né, c'était décembre, c'était janvier, c'était septembre. Je crois que c'était pas à la fin de l'année. Mais c'est pas grave. Parce que le plus important, c'est faire briller la lumière de Christ. Le plus important, c'est l'opportunité qu'on a devant nous pour passer des temps en famille et pour éclairer la vie des autres. Parce que des fois, on rentre trop dans la religiosité. Et moi, quand je parle devant vous, je parle parce que j'étais dedans des fois. Alors, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire j'ai les derniers mots et j'ai la vérité complètement. Et on va voir ce matin. On n'est pas les propriétaires de la vérité complète dans la parole de Dieu. Moi, je vous disais, ça fait quelques semaines. Maintenant, il y a des débats dans tous les réseaux sociaux. Est-ce que Jésus, il va venir dans cette génération? Moi, je le crois, que Jésus, il va venir. Alors, les gens, ils commencent à parler de cet fameux événement qui va se passer, qui s'appelle l'élèvement, n'est-ce pas? C'est comme ça? Alors, non, comme enlèvement, merci. Enlèvement. Alors maintenant, on commence, il y a tous les pasteurs qui commencent à se barrer pour dire, écoute, l'église, il va être enlevée et après, il y aura comment ça s'appelle, la persécution, il y aura tout ça, la difficulté, et après Jésus qui vient. Après, il y a des pasteurs qui se positionnent de l'autre côté. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que dit la parole? Le plus important, c'est l'amour. Le plus important, c'est aider les jeunes à sortir et à ne pas passer une éternité dans l'enfer sans Christ. Qu'est-ce que vous pensez? C'est plus important les choses que je crois moi-même parce que j'ai reçu une révélation très forte de Dieu ou c'est plus important la parole de Dieu? Jamais dans la parole de Dieu, tu peux défendre une chose ou autre chose. Alors ça dépend de la position que tu vas prendre. C'est pour ça que je t'ai posé la position ce matin. Est-ce que tu voudrais vraiment où tu vas te positionner. Tu vas te positionner pour dire, j'ai le dernier mot, j'ai la parole, je sais, je connais tout. Ou tu vas te positionner pour dire, Seigneur, montre-moi de quelle manière je peux aimer les gens qui sont perdus et comme je vais les aider. Parce que le plus important pour une personne, ce n'est pas de dire, tu peux fêter Noël ou tu ne peux pas fêter Noël. Le plus important, c'est se rapprocher de cette personne pour lui dire, il y a un espoir, il y a Jésus qui est venu sur terre. Même si je connais que ce n'est pas la date, parce que je ne crois pas que c'est la date, ce n'est pas grave. On va les fêter parce qu'on aime, on a Dieu, on sait qu'il est venu par terre. Le plus important, c'est que lui, il a pris sa décision de venir dans la terre pour éclairer le monde entier. Et tu sais, c'est quoi le problème plus grand, plus grave qu'on a les chrétiens? C'est qu'on ne laisse pas à Dieu éclairer notre vie. J'aime bien que tu réfléchisses ce matin. Quel domaine de ta vie, je te pose la question, tu n'as pas laissé éclairer à Dieu? Maintenant, avec tous les volets qu'on a, on peut être ce matin qu'il y a le soleil qui brille. Si je vais fermer tous les volets chez moi, à l'intérieur de ma maison, qu'est-ce que j'aurai? Des ténèbres et de l'obscurité. Alors des fois, c'est notre vie qu'on ne connaît pas Jésus. Quand on ne connaît pas Jésus, on vit toujours dans les ténèbres. Et je ne sais pas si tu as fait l'exercice d'essayer d'arranger la cuisine ou ta chambre dans l'obscurité. C'est impossible. C'est quelque chose de fou. Tu ne peux pas arranger. Imaginons que la chambre, tu ne peux pas marcher dans la cuisine ou dans ta chambre et tu vas rentrer et tu vas dire, écoute, je vais arranger toute cette situation parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ici. Tu peux essayer de le faire au milieu de l'obscurité. Est-ce que tu penses que ça va marcher? Jamais. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut allumer, il faut ramener une lampe, il faut monter les volets pour dire, voilà, et on va éclairer la pièce et on va commencer à travailler. Je vais te dire une vérité. Ça va nous faire passer à Jean 8, verset 12. 8. Verset 12, écoute ça, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Un jour, j'étais au milieu des ténèbres parce que j'étais mort spirituellement. C'est la mort spirituelle. Je ne connaissais pas la vérité. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu et m'a présenté à Jésus. Il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a dit, écoute, il n'y a que des ténèbres dans ta vie. Tu as besoin de la lumière. Et à ce moment-là, j'ai pris la décision pour dire, Jésus, je veux soin de toi. Je suis un pécheur. Je reconnais que j'ai fait des torts. Et je veux soin que tu viennes m'aider pour éclairer ma vie et pour montrer vraiment qu'est-ce qu'il faut que je commence à arranger. Et vous le savez, nous comme chrétiens, et nous, comme des êtres humains, c'est très difficile pour nous d'être éclairés par la lumière. Et vous savez pourquoi? Parce que la lumière, c'est la vérité. Et des fois, la vérité, j'aime pas que les gens me disent la vérité face à face. J'aime pas entendre la vérité. Et c'est pour ça que nous, des fois, comme chrétiens, on va continuer pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans avec les mêmes situations, avec les mêmes soucis, avec les mêmes problèmes, avec l'ennemi qui va agir de la même manière. Et tu sais, c'est pourquoi, et moi je réfléchis cette semaine que j'étais en train de préparer ça, c'était parce qu'il y a des endroits qu'on n'a pas laissé à Jésus éclairer notre vie. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais à moi, oui. Hein. Et moi, j'ai découvert cette semaine, oh Seigneur, peut-être que j'ai dit, cette petite pièce, que c'est la plus importante de ma vie, je ne vais pas te laisser rentrer. Je ne veux pas ouvrir la porte, ouvrir les volets et que tu rentres à l'intérieur. Pourquoi? Parce que des fois, j'ai peur de toutes les choses que je peux voir à l'intérieur. Des fois, j'ai la peur de voir tous les bazars qu'il y a à l'intérieur. Et je pense, Seigneur, je ne serai pas capable d'arranger et de faire le travail qu'il faut faire. Mais ce n'est pas grave, on ne peut pas décourager. C'est le Seigneur qui a le contrôle de toutes les choses. C'est lui. Mais tu sais, s'il n'a pas la lumière, il n'y a pas la vérité. Ça n'existait pas. Il faut la lumière qui accompagne la vérité. C'est ça, il faut éclairer, il faut la clarté. C'est pour ça que c'est important. Dire les choses, c'est important. On ne peut pas, des fois, ne pas écouter les gens qui viennent pour nous dire les choses, parce que des fois, on est aveugle dans quelques situations. Il faut écouter les seigneurs. Il faut écouter, il faut laisser que le Seigneur, il rentre, il fasse son travail d'arranger ta vie et de laisser la lumière de Jésus nous allumer. Amen. La source de lumière est Jésus. Deuxième point. Ça, c'est important. Parce que c'est Jésus qui l'a dit. On est la lumière de ce monde. Matthieu 5. À partir du verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Alors, c'est qui la source? C'est Jésus, c'est lui, c'est la vie. Mais il dit quelque chose de très important de toi et de moi. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. C'est pour ça, je vous dis une vérité que des fois on ne voudrait pas entendre aussi. Nous comme chrétiens, et tu comme chrétienne, tu vas être toujours dans les focus de toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu. On est responsable, écoute bien ça, tu as un privilège d'être lumière. Mais toi et moi, on a la responsabilité de répondre à cet appel d'être lumière. Et tu sais pourquoi? Parce que la parole dit qu'on est dans un sommet. On ne peut pas cacher la lumière. Alors c'est pour ça que quand tu partages, il y a des personnes dans ton environnement qui savent que tu es chrétien, ils vont commencer à te regarder comme ça, de près. Alors tu dis, moi je m'ai fâché plusieurs fois parce que je dis, écoute, on ne dit rien dans le travail, alors ce n'est pas grave, tu fais des bêtises, tu peux faire tout. Mais les moments que tu dis, tu es chrétien, tous les regardent vers toi. Je me rappelle, quand j'ai commencé la vie chrétienne, c'était... Ça fait plus de 20 ans déjà, mais j'ai rentré en Colombie par la première fois après d'avoir venu ici en Europe. Et c'était l'année 2007 pour le mariage de mon frère. Et j'avais ma fille Isabella qui avait un an. Je me rappelle que quand j'ai arrivé en Colombie, toute ma famille, elle savait déjà que j'ai devenu chrétien. Et on est dans une tradition catholique en Colombie. Presque tout le monde que tu va trouver la sont catholiques. Alors j'ai des tantes qu'elles sont très, très, très catholiques. Alors le moment du mariage de mon frère, j'étais en Colombie et on était en train de dîner ensemble. Et alors j'ai une tante qui se rapproche de moi. Elle vient me reprocher pourquoi je n'avais pas baptisé ma fille. Parce que dans la tradition catholique, et moi, comme j'étais catholique jusqu'à 21 ans, et c'est toujours quand ils sont 1 an, 12 ans, quand ils sont petits, qu'ils ont... Alors ma fille, Isabella, elle avait déjà un mois. J'ai une conversation avec pour réfléchir à ça. Et je n'ai pas rentré dans tous les détails, mais je lui ai dit, j'ai présenté déjà ma fille au Seigneur. Mais moi, à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que quand tu prends la décision d'être lumière, et tu veux briller, comme je t'ai posé la question ce matin, tu vas être dans le focus de tout le monde. Tout le monde va commencer à te regarder comme ça. Et la première fois que tu fais une petite bêtise, tac, il y a tout le monde qui va venir sur toi. Alors, ça fait partie. Il faut tenir. Ça fait partie du travail qu'il faut qu'on fasse. On ne peut pas être dans le déni pour dire non, je vais être chrétien. Jamais personne qui va venir pour me reprocher quelque chose. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus il a dit, vous êtes dans le monde. Et dans le monde, tu vas trouver l'affliction, la douleur. Ici, lui, qui a été le maître, qui a été le pasteur de toutes les vraies vies, il a été persécuté. Imaginons, nous. Et ça va arriver aussi. Et c'est pour ça que je rappelle ça. Il faut compter avec ça. Alors, Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Tout le monde va te voir. Verset 15. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre cachée sous une mesure à grain. Pardon. Au contraire, on la fixe sur un pied de l'homme pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière, écoute ça, votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient les bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Je dis, tu es en lumière et tu as un privilège, mais tu as une responsabilité devant le Seigneur. Et je voudrais rappeler ça. Parce que quand on est à l'église, on dit, on va dire tous les privilèges à tout le monde, mais il faut dire la vérité aussi. C'est un privilège d'être lumière, mais c'est une grande responsabilité parce qu'il y a tous les regards qui vont venir vers toi. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser briller la lumière de Christ et qu'il commence à te guérir complètement pour être un vrai ambassadeur de Christ, ou tu vas être dans le déni et dire, non, c'est pas grave, je ne vais pas reconnaître les choses qu'il faut que je commence à changer dans ma vie. Parce que moi, j'ai plein de choses à changer dans ma vie. Je vous dis la vérité. On est tous des êtres humains. Mais le plus important, c'est de, devant le Seigneur, nous dire la vérité et dire, Seigneur, pardonne-moi parce qu'il y a cette situation que je ne t'ai pas laissé rentrer. Je vous dis, je voudrais aller un petit peu plus avec mon témoignage. Quand j'étais pasteur en Portugal, je dis, Seigneur, il y a ça qui on fait bien, il y a ça qui on fait bien. Alors, j'ai commencé pour voir toutes les choses dans lesquelles Jésus il avait éclairé, mais il y avait des choses très privées dans ma vie et même dans mon couple que jamais j'avais laissé rentrer la lumière. Et vous savez, c'est par rapport à cette petite fissure que la maison elle avait commencé à tomber. Parce que l'ennemi, il va s'en servir de toutes les choses et de tous les domaines dans lesquels tu n'as pas laissé rentrer la lumière de Christ. Et après, je me retrouvais, et ça fait 5 ans à cette époque, que j'étais en train de rentrer en Portugal, cassé complètement, viré d'une église complètement, et avec une situation dans laquelle j'ai tombé pendant 2 mois, autres mois, en dépression. C'était dur et c'était difficile. Mais je sais pourquoi le Seigneur il m'a laissé passer ça. Parce qu'il voudrait que tu rentres dans la repentance, que tu reconnais les choses toi-même. Parce que des fois, on est très fort en lui-même. On va les lire tout à l'heure. Je voudrais dire, non, je suis capable. Et je peux. Non, je suis fragile. Moi, devant le Seigneur, maintenant, je sais que je suis fragile. Et tu sais, moi, j'aime bien comme l'apôtre Paul, il a dit, Seigneur, aide-moi, aide-moi. J'ai cette situation difficile. Et le Seigneur, il a dit, écoute, c'est que ma grâce que je vais te donner à toi. C'est que ma grâce. Peut-être que jamais il va enlever quel que soit, mais c'est ma grâce. Parce qu'il est plus puissant dans notre fragilité. C'est quoi le souci? C'est qu'on pense qu'on est très fort pour faire les choses. Que je suis très fort pour soutenir ma famille. Que je suis très fort pour enlever mes filles, pour aider mes filles dans tous les domaines et dans tous les échecs qu'ils vont suivre dans la vie. Non, ce n'est pas moi qui vais les faire. C'est le Seigneur, en tout cas, qui conduit et qui fait les choses. On est la lumière de ce monde. On a un privilège, mais on a aussi une très, très, très grosse responsabilité. Et quand je dis ça, je ne parle pas de l'église. Je ne parle pas d'un homme d'une église. Je parle de la vie de chaque chrétien. Parce que l'évangile, il a été donné à chacun de nous et à chaque chrétien. Troisième, être lumière, je l'ai dit tout à l'heure, est une responsabilité. Ephésiens 5, bon, non, c'est pas comme ça. Être lumière est un privilège et une responsabilité. Ephésiens 5. À partir du verset 8. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Ça montre notre vie avant de connaître Jésus. Et maintenant, comportez-vous, si on a reçu la lumière, écoute bien ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière. Verset 9. car les fruits produits par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Qu'est-ce qui va ramener la lumière? La lumière va ramener tout qui est bon, qui est juste, il va ramener aussi la vérité. Verset 10, efforcez-vous de discerner ce qui plaît le Seigneur. Amen. Il faut faire l'effort pour discerner ce qui va plaire à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur il veut de moi? Comme j'ai dit tout à l'heure, quel domaine le Seigneur il me demande? Peut-être que c'est, je ne sais pas, je dis, il y a deux jeunes ici dans la salle, peut-être que c'est la sexualité. Peut-être que c'est la décision du Seigneur avec qui je vais me marier. La décision que tu vas prendre. Mais il faut que chaque moment, chaque situation de ta vie, tu la remettes devant le Seigneur. Et que tu pries, tu le dis, Seigneur, amène la lumière. Parce que la lumière, on vient de lire, elle est bonne, elle est juste, elle est vraie. Et c'est ça qui va compter et qui va t'aider pour grandir, pour réussir dans tous les projets que tu as préparés pour ta vie. C'est la lumière. Je me rappelle que ça fait quelques semaines, Michel, il nous a rappelé le verset qui dit que la parole de Dieu, il est comme un phare, comme une lumière qui va nous éclairer les chemins. Et ce matin, j'ai lu que David, il a dit, Seigneur, je suis dans le fond d'un puits et tu m'as sauvé. Et tu sais, quand on est dans le fond d'un puits, qu'est-ce qu'on voit? On voit les noirs. On voit à côté, on voit à droite, à gauche, on voit l'obscurité. On regarde au ciel et on voit qu'il y a une petite lumière là-haut. C'était même le cas de José. Vous vous rappelez que José, il avait été mis pour ses frères dans un puits. Et des fois, on est comme ça. Moi, j'étais dans un puits pendant longtemps. Ça, pour moi, c'était la dépression. Je ne sais pas comment ça s'appelle pour toi. Pour toi, peut-être, c'est la haine. Pour toi, peut-être, c'est les problèmes à niveau familial. Je ne sais pas. Mais tous, on a eu un puits qu'on a dit, je ne suis pas capable de sortir d'ici. Et après, tu regardes, tu vois un petit espoir là-bas. Tu vois une petite lumière. Il faut s'accrocher à ça. Parce que c'est le Seigneur qui va nous faire sortir de cet endroit. On passe à la quatrième. Écoute ça, ne décourage pas Jésus, il peut te rallumer. Et pourquoi j'ai dit ça ce matin? J'ai un couple de pasteurs qui sont à Madrid et que j'ai parlé avec vous quelques fois, qu'ils sont très proches à nous. Et je me rappelle 12 ans avant de qu'on est parti comme famille à habiter à Lisbonne, je me rappelle qu'il avait tombé en dépression. Alors des fois on dit, un pasteur il ne peut pas tomber en dépression, ça c'est un mensonge. Parce que Jésus il a été très fort et il a pleuré. Il a été dans un moment de dire, Seigneur, il faut que tu m'aides. Et il a transpiré, il y avait des sangs. Alors il a été humain. Et en plus il a été moitié humain, moitié Dieu. Imaginons-nous, on est fragile. Et moi je me rappelle, 12 ans avant que j'ai rentré en Portugal, c'était le pasteur principal qu'il y avait là-bas, en Lisbonne. Il y avait un moment qu'il a commencé à tomber dans un état de dépression. C'était très fort à niveau spirituel. Il avait parti de l'église, il avait rentré dans les États-Unis. Moi, j'ai perdu le contact avec lui. On avait de très bonnes relations. Et l'église, il avait préparé une petite équipe pour prendre un peu le relais parce qu'il y avait une petite église. Mais bon, l'église, il avait continué. Mais après, la proposition, c'était pour Paula et moi d'être dans la même église. 12 ans et demi que j'ai passé là-bas. Après, j'ai sorti avec la même situation de mon collègue pasteur qui était avant. Il y avait quelque chose de spirituel de fort là-bas, dans cet endroit. Et moi, quand j'ai sorti, peut-être dans un état mieux que lui, parce qu'il est parti, il prenait des médicaments, c'était une situation très très difficile pour lui. Moi, je n'ai pas arrivé à ce niveau-là, je rentrais en Colombie, c'était deux histoires complètement difficiles. Mais j'ai rencontré ce couple pastoral des pasteurs et 5 ans après qu'ils sont partis dans les États-Unis, ils sont rentrés à Madrid. Et ils se sont restaurés dans une église de comment ça s'appelle, de square. De Forest Square, ils ont trouvé un pasteur à Madrid qui les a aidés, ils sont restaurés. Et maintenant, ils sont dans une église, les pasteurs d'une église à côté de Madrid. Alors, dans un moment que le Seigneur lui a permis de nous retrouver, Jésus, qu'il avait écrit un livre, Et ce livre, il correspond à ces versets que je vais lire tout à l'heure, parce qu'elle a écouté ce que le Seigneur il a dit. Même s'il y a une bougie qu'il est en train de s'éteindre. Vous avez vu les bougies quand il y a déjà que la fumée qui sort. Le Seigneur, il dit que si tu rentres dans la repentance et que si tu acceptes les choses, il faudra faire que se rallume les feux qu'il avait mis déjà un jour. Alors, c'est un livre que j'en ai en espagnol parce que c'est vendu aussi par Amazon et tout ça. Et pour moi, c'était très important et très intéressant. Et ça m'a aidé dans ma restauration. J'étais là dans l'église, ça fait 3 ans. Et moi, quand j'ai eu l'opportunité, c'était Dieu vraiment qui a fait qu'on s'est rencontrés. Et pour moi, c'était un grand témoignage de voir des personnes qui sont tombées et qui n'avaient pas l'espoir parce que c'était dans un puits très profond et que le Seigneur les a fait ressortir. Maintenant, Dieu, il a fait avec nous aussi. Hein, parce que Dieu, il est un Dieu de grâce. Il est un Dieu qui fait des miracles. Et ce n'est pas grave si tu es dans la situation plus profonde ou chacun de ta famille. C'est quelque chose que Dieu il pouvait faire parce que lui il est puissant, mais il avait soin de quoi? D'un corps repenti devant lui, de se dire la vérité. C'est pas facile se dire la vérité. Et moi, quand j'ai quitté, ma femme et moi on est partis dans 2 sens différents. Ma femme elle a dit ah, c'était tout la faute à les autres parce que c'était l'église qui nous a laissé tomber, c'était ça. Et moi, j'ai tombé de l'autre côté. Moi, j'ai dit c'était ma faute. C'est pour ça que j'ai tombé dans la dépression, parce que quand on accepte pas qu'il faut se pardonner, et même que tu as fait des torts, jamais tu vas t'en sortir de la dépression. Pour sortir de la dépression, le plus important, c'est de te dire la vérité et reconnaître que tu as fait tort, mais que peut-être de l'autre côté, c'était fait aussi. Mais aussi, pour sortir de la haine, il faut reconnaître aussi que moi-même, je fais des torts aussi quelquefois. Alors, on était dans cette situation. Et on a travaillé pendant 4 ans, Paula et moi, et le Seigneur, il a commencé à rétablir et à mettre les choses en ordre. Mais c'est pour ça que je vais lire ce verset, Matthieu 12, 20. C'est le livre qu'a écrit ce pasteur. Et je vais aller lire Matthieu 12, 20. Écoute ce que dit la parole. Il ne brisera pas les roseaux qui s'éploient. Et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Tu ne peux pas te décourager. Parce que si tu n'as pas vu la lumière dans quelques aspects de ta vie, le Seigneur, il voulait faire ce matin. Je voudrais que tu pries avant de finir ce culte avec moi et dire, Seigneur, aide-moi. Parce que ça fait 40 ans, 50 ans, 20 ans, même 12 ans que je suis chrétien. Mais il y a des choses que je n'ai pas vues vraiment s'est passé dans ma vie. Le Seigneur, il va venir. Et même que tu sens maintenant que tu as perdu la flamme, que tu as perdu cet aspect qui enfin, c'est le Saint-Esprit. Parce que la flamme, on peut seulement, c'est le Seigneur qui peut la rallumer dans ta vie. Si aujourd'hui, tu t'arrêtes dans une situation que tu n'as plus l'envie pour marcher avec le Seigneur, que tu dis, Seigneur, je ne peux pas plus briller parce que tu me connais, j'ai des défauts. C'est pour toi cette prédication. Si tu es ce matin et tu dis, Seigneur, j'ai fait vraiment des bêtises, que jamais je pourrais éclairer la vie de quelqu'un d'autre, ça c'est faux. C'est l'ennemi qui te parle. Parce que tu peux le faire. Mais il faut que tu rentres dans la repentance aussi. Et tu dis, Seigneur, donnez-moi l'opportunité d'éclairer la vie de quelqu'un d'autre, même que je fais des erreurs. Tu sais, le Seigneur, il permet qu'on tombe et qu'on passe par des puits. Parce que c'est dans ces moments-là que le Seigneur, il va travailler notre orgueil. C'est dans ces moments-là que le Seigneur va venir, il va tout dériver, tout écraser dans ta vie pour recommencer à zéro. Parce que l'œuvre qu'il veut faire dans ta vie, c'est plus important et c'est plus grand que les choses qu'il a fait avant. Mais il faut que tu le crois et que tu marches dans cette vérité. Que tu dis, Seigneur, ça fait 2 années que j'ai voulu voir cette situation changer dans ma couple et dans ma vie avec mes enfants et je ne l'ai pas vu. Mais peut-être que c'est le moment. Mais il faut que tu les cherches. Il faut que tu les laisses rentrer dans ta vie et que tu les dis ce matin, Seigneur, je vais te donner cette situation parce que je ne peux pas avec cette difficulté. Le Seigneur, il va venir, il va t'aider, il va éclairer. Parce que le Seigneur, écoute ça, il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Si tu es dans son situation, dis-lui, Seigneur, je suis presque à ça de que ma vie s'effondre complètement. Mais s'il y a un petit peu d'espoir, le Seigneur, il vient, il va rallumer et tu seras comme une bougie qui va éclairer les autres. Amen. 2 Corinthiens 4. Verset 6. En effet, le même Dieu qui un jour a dit que la lumière brille du sein des ténèbres a lui-même brillé dans notre corps pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ. Verset 7. Mais ces trésors, ces lumières, écoute ça, je dis déjà ça, nous les portons dans des vases faits d'argile, de fragilité, pour que ce soit la puissance extraordinaire de Dieu qui s'y manifeste, et non notre propre capacité. C'est Dieu qui va faire les choses, pas ma propre capacité, parce que je suis incapable de faire quel que soit. Verset 8, ainsi nous sommes accablés pour toutes sortes de détresses, et cependant jamais écrasés. Nous sommes désemparés, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, terrassés, mais non pas anéantis. Verset 10, oui, nous portons toujours en tout lieu dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus et sa lumière, je voudrais rajouter, elle aussi rendue manifeste par notre corps. C'est notre vie qui va éclairer. C'est à nous la responsabilité d'être ambassadeurs de Dieu ici dans la terre. Cinquième, la lumière ramène la clarté. Et avec ce verset, je vais finir, comme ça on va prier tous ensemble. Et la lumière ramène la clarté. Et Théo, je vais te demander un petit service. Est-ce que tu peux descendre et dire à Isabella s'il peut venir pour m'accompagner dans le... Ah bon, Jaime va le faire. Merci, merci. Et, si c'est possible qu'elle peut monter. Luc 11, verset 33. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un recoin ou sur une mesure à grain. On a vu déjà un verset qui parlait de ça. Non, on la place sur un pied de l'homme pour que ceux qui entrent voient la lumière. Verset 34, tes yeux, attention à ça, ça c'est important parce que c'est les yeux. Écoute ça. Tes yeux sont comme une lampe pour tout ton corps. La lampe du corps, c'est notre yeux. C'est ça qui est important. Qu'est-ce qu'on regarde? De quelle manière je vois les choses? Si tes yeux sont en bon état, tout ton corps jouit de la lumière. Mais s'ils sont malades, tout ton corps est plongé dans l'obscurité. Fais donc attention à ce que ta lumière ne soit pas obscurcie. Si ton corps tout entier est dans la lumière, sans aucune partie dans l'obscurité, il jouira pleinement de la lumière comme lorsque la lampe t'éclaire de sa clarté. La lumière ramène la clarté dans tes vies et dans tes yeux aussi pour que tu vois les choses d'une manière différente. Que tu peux voir les choses avec la foi, avec les yeux de la foi. Et que tu vois clairement qu'est-ce que le Seigneur il faut faire dans ta vie. On ne connaît pas tout. On ne sait pas tout. On sait que le Seigneur, avec sa lumière, il pourra nous éclairer pas à pas qu'est-ce qu'il attend vraiment de nous. Mais il faut être dans la communion avec le Seigneur. J'ai un message très fort à prêcher par rapport à les 10 vierges qu'il y avait des vierges, et ça va avec les thèmes que je partage, et qu'ils sont laissé finir son huile pour mettre dans les lampes. Alors, je vais revenir peut-être si j'aurai l'opportunité après, parce que c'est une prédication vraiment pour l'Église. J'ai partagé quelque chose à niveau personnel, mais il y a une parole très forte qui parle de l'Église, qui parle de que l'Église ne peut pas laisser finir l'onction du Saint-Esprit. Parce que c'est ça. Il y avait 10 vierges qui attendaient que le Seigneur il venait. Il y en a dans ces moments-là. J'essaie de préparer ce message, mais j'ai préparé ce matin un message plus clair et plus simple. Mais je pense que c'est important de montrer comme c'est des moments d'obscurité pour l'Église de Dieu maintenant. Et c'est l'importance de réveiller, de se réveiller devant le Seigneur. Et là, je n'ai pas eu les versets ici, mais je l'avais préparé quand j'ai préparé tout ça. Mais c'est important de nous réveiller, chacun de nous, et de faire briller la lumière de Christ. Mais ça commence pour chacun de nous. Ce n'est pas les pasteurs ou les responsables de l'Église qui vont faire les boulots. Ce n'est pas nous qui allons les faire. C'est si chacun de nous se laisse éclairer pour la lumière de Christ. Amen.